Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Certains auditeurs m'ont demandé de parler plus des aspects religieux des événements de notre temps, et aussi des temps anciens. Et c'est ce que je me propose de faire à présent. Je vais raconter et essayer de commenter l'histoire de la promesse d'Abraham. Commençons par donner une précision importante. En ce temps-là, très ancien, l'immense majorité des hommes est polythéiste et croit que l'univers est divin, éternel et incréé. Pour l'immense majorité de cette époque, il n'y a pas de création et Dieu ne se distingue pas de l'univers. Or, le récit que je vais relater fait apparaître pour la première fois un dialogue entre un humain et Dieu. C'est ainsi la première tentative de « sortie » entre guillemets de l'univers païen magico-religieux. C'est pourquoi cette histoire n'est pas celle de l'éternel retour, le mythe indien, ou du destin tragique, la mythologie grecque, mais au contraire, celle de la liberté. On ne revient pas toujours à la même chose, puisque Abraham va faire des choix, comme vous allez le voir. Et je fais aussi ça parce que on ne peut pas comprendre la tentative de sacrifice d'Isaac, le fils d'Abraham, qu'on lit régulièrement lors de la vigile de Pâques. Vous l'avez tous entendu, si vous l'avez faite, et on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas entendu tout ce qui précède.
Vous écoutez Les Histoires à la loupe, une émission de Radio Courtoisie. Voici la promesse à Abraham, première partie de ce récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Voici donc le récit qui commence lorsque Abraham est vieux, 75 ans. Et on pourrait se dire qu'il n'a plus rien à prouver ni à entreprendre, puisque à cet âge, il est très riche. C'est l'occasion de rappeler que le terme capitalisme vient du mot latin capitas, terme qui vise les têtes de bétail. De fait, le récit biblique précise au 13e verset, vous vérifierez, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On peut donc dire que Abraham était un capitaliste des temps anciens. Mais cela, le récit biblique ne l'aborde que plus tard, car au début, tout commence brusquement et sans aucune introduction préparatoire. C'est Dieu qui fait irruption dans sa vie. Et voici le texte. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Fin de citation. Vous conviendrez que tout quitter à 75 ans, quand on a tout, ce n'est pas une mince affaire. La Bible ne dit pourtant pas que cette exhortation, presque cet ordre, a contrarié ou inquiété Abraham. Au contraire, il est écrit un peu plus loin, très laconiquement, Abraham partit comme le lui avait dit Yahvé. Aucune hésitation donc, aucune négociation, alors que Abraham sait négocier. Vous allez le voir plus tard avec le projet de destruction de la ville de Sodome. Donc il obtempère. Et s'il obtempère, c'est qu'il y a eu aussi la promesse, et c'est ça le plus important. Je lis, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront.
Stop!
Vous venez d'entendre le psaume 42, interprété par Sœur Marie Kérouz.
Donc, il faut quand même imaginer la situation. Voici un homme qui est au début de la vieillesse, qui semble avoir tout réussi, et Dieu lui demande de tout plaquer, ou plutôt de tout emmener pour un long voyage qui peut s'avérer périlleux. Dieu lui demande en somme de tout miser à nouveau, de remettre en jeu, peut-être au risque de tout perdre. Et notre homme ne discute pas un instant, puisque le texte dit laconiquement « Abraham partit ». Et le texte précise « Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran, ils se mirent en route pour le pays de Canaan. » Abraham était à Ur. Ur se situe en Mésopotamie à l'embouchure de l'Euphrate. À l'époque, c'était assez loin de Canaan qui est en Israël. Dans ces temps anciens, les déplacements étaient lents, car le seul moyen de transport à travers le désert était les caravanes de chameaux. À noter que Yahvé ne précise pas où ils doivent aller. « Le pays que je t'indiquerai », simplement dit-il. Et ne semble pas s'immiscer dans les détails de la vie quotidienne en précisant quelle est la route à suivre ou quel est le mode d'emploi. Non, la seule chose qu'on lit, c'est ceci. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. C'est tout. Abraham est un peu comme Christophe Colomb au début de sa traversée de l'Atlantique. Il sait l'objectif final, mais pas trop le chemin précis. Et ça recommencera plus tard lors du sacrifice avorté d'Isaac. Je cite, « Yahvé apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Puis de campement en campement, Abraham alla jusqu'au Négueb. Fin de citation. Donc à chaque campement, Abraham construit un autel et invoque Yahvé. Ainsi, Yahvé laisse Abraham prendre ses initiatives et ne semble pas dicter les destinations qu'il choisit, mais il les approuve, puisqu'il promet le pays à sa postérité. Donc déjà, vous voyez un peu de liberté là. Toujours est-il que la promesse de Dieu, ainsi que sa puissante présence, paraît si magnifique, si somptueuse, si belle, si supérieure à tout ce qu'Abraham a déjà, et c'est beaucoup déjà, qu'elle déclenche un départ immédiat, quels que soient les risques. Et on pense à cette phrase de Montesquieu, « Quand on est sûr de ce qu'on a, on ose l'exposer pour acquérir davantage. » Et là, l'acquisition promise, ce n'est pas juste des biens matériels, mais c'est tout un pays, une descendance, alors qu'Abraham n'a pas d'enfant. Une histoire, alors qu'il est vieux. Tout recommence comme s'il avait 20 ans. C'est la perspective lointaine. Mais avant de l'atteindre, vont survenir les péripéties de l'histoire humaine qui en incurvent le cours et la parchème d'obstacles. Famine, sexualité et quiproquo. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. De telles catastrophes alimentaires, causées par de mauvaises récoltes ou par des intempéries, se reproduisent dans l'Ancien Testament de temps à autre, jusqu'à ce qu'un individu hors du commun, Joseph, vous savez, le fameux Joseph et ses frères, et il trouve une solution définitive qui est faire des réserves, faire de l'épargne. Aussi, c'est aussi une solution capitaliste. L'Ancien Testament met parfois en lumière des génies innovateurs, tels que Joseph. Bon, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, la seule solution à la famine, c'est la fuite en Égypte. Pays prospère, ce que fait Abraham. Alors voici le texte. « Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme ». Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » De fait, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais Yahvé frappa Pharaon de grandes plaies et aussi sa maison. À propos de Sarai, la femme d'Abraham, Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit « Elle est ma sœur » en sorte que je l'ai prise pour femme ? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Alors, vous voyez que c'est une sorte de comédie que je viens de lire. C'est la Bible, hein ? Et l'humour n'en est pas absent. Et elle nous montre plusieurs choses assez permanentes chez les humains. Premièrement, Abraham est parfois un peu craintif ou au moins prudent puisqu'il a cette ruse pour éviter d'être assassiné à cause du désir que sa femme pourrait susciter chez des rivaux concupiscents. Faire passer la ruse, c'est de faire passer sa femme pour sa sœur. Notons au passage que Sarai était probablement aussi la sœur d'Abraham. Cela nous est révélé au verset 20-12. Je cite, « Elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » En ce temps-là, il était de coutume pour un fils d'épouser la fille de son père, si ce dernier venait à mourir. Les relations endogamiques étaient parfois en usage à cette époque. Deuxième particularité, on peut être belle à 65 ans, hein, et être l'objet de convoitises, au point d'être enlevée par le pharaon en échange de toute une pluie d'or, puisque le pharaon, certes, enlève Sarai, mais ce n'est pas comme la belle Hélène de la mythologie grecque, puisqu'il paye cet enlèvement par du bétail, des ânes, des esclaves, des chameaux, etc. Troisièmement, les malheurs qui s'abattent sur le pharaon en sanction de cet enlèvement le persuadent qu'il a eu tort et qu'il lui faut renvoyer celle qu'il a prise pour la sœur d'Abraham. Mais alors là, on ignore qui a vendu la mèche. La mèche qu'elle est déjà mariée. Est-ce que c'est la rumeur insidieuse ou est-ce que c'est Sarai elle-même? La Bible ne le dit pas. Toujours est-il que la prudence ou le stratagème d'Abraham s'approche un peu de ce qu'on pourrait appeler un proxénétisme conjugal, ne trouvez-vous pas? La Bible a aussi cet intérêt. Elle montre les imperfections des êtres humains. Alors les péripéties se poursuivent avec un conflit potentiel entre Abraham et son neveu Lot. Cet antagonisme, en somme entre deux capitalistes, permet d'apercevoir l'intelligence d'Abraham, qui trouve une solution en prenant en considération les défauts de son neveu, c'est-à-dire ses appétits. Et voici le texte qui, j'espère, vous en dira long sur les conflits entre capitalistes. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune. Et voici la phrase importante. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Ça veut dire quelque chose, peut-être. Il y eut une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Périssites, qui habitaient alors le pays. Aussi Abraham dit-il à Lot, « Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée. C'était avant que Yahvé ne détruise Sodome et Gomorre. Des partout irrigués comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte jusque vers Coar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Fin de citation. Hein, c'est pas beau ça? Et il a compris qu'il avait envie de ce pays prospère et il lui a donné. C'est là que Yahvé renouvelle sa promesse. Je cite. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. » Et ça, vous le connaissez, amis auditeurs, Yahvé a renouvelé maintes fois cette promesse qui revient comme un refrain litanique avec les grains de sable, puis avec le nombre des étoiles dans le ciel. Et l'on peut dire avec le recul que finalement, et avec le temps, eh bien Yahvé a tenu parole. Puisque les descendants d'Abraham, juifs d'abord, puis chrétiens, puis musulmans, car il ne faut pas oublier que les musulmans se revendiquent de la descendance d'un de ses fils, Ismaël. Tous ces gens-là peuvent être comptés aujourd'hui non par millions, mais par milliards. Promesse tenue. Or, c'est justement le grave problème qui, à ce moment, se pose au couple Abraham-Sarai. Ils n'ont pas d'enfants. À cette époque, c'est fondamental d'avoir des enfants, bien plus qu'à la nôtre. Et voici le texte que je vous lis. La femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham,
« Vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. »
Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans, qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham,
« Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à tes yeux. Que Yahvé juge entre moi et toi. »
Abraham dit à Sarai, « Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. » Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit devant elle. Fin de citation. Donc voilà le texte. Alors là, évidemment, vous voyez les sentiments humains contradictoires de complicité, d'abord avec Sarai, puis de jalousie de Sarai, et puis de dépit, et tout ça, ça apparaît. Mais malgré tout, la servante Agar, enceinte, met au monde un fils, ce sera Ismaël, lorsque Abraham était âgé de 86 ans. Et voici que la promesse se précise et donne lieu à une sorte de rupture avec la vie d'avant, un changement de destinée. Abraham va changer de nom et adopter un rite initiatique pour ses descendants, c'est la circoncision. Je lis le texte. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Fin de citation. Comme d'habitude, Abraham obéit. Et vous savez que saint Paul, bien plus tard, pour les chrétiens, aura levé ce rite initiatique. Alors, 2 locutions nécessitent une explication dans le texte que je viens de lire. D'abord, le nouveau nom, Abraham, vient de Ab-Hamon, qui signifie « père de multitude », ce qui souligne encore la force de l'engagement promis. Ensuite, que penser du terme « acheté à prix d'argent » ? Eh bien, dans les temps anciens où l'esclavage existait, il arrivait qu'on achetât des enfants. Mais vous savez, cette pratique, elle existe toujours aujourd'hui, avec l'adoption. L'Ancien Testament ne porte pas de jugement. Vous avez remarqué, il ne dit pas « c'est bien, c'est mal », et sur cette pratique, mais il se borne à la mentionner. Il prend les hommes tels qu'ils sont. La particularité ici est que même si l'enfant n'était pas hébreu, il devait être circoncis, ce qui révèle que le critère n'est pas la race de la famille ou n'est pas sa couleur de peau, mais seulement sa foi en Dieu. Je rappelle à nouveau qu'à cette époque antique, l'immense majorité des hommes était polythéiste. Le monothéisme était une infime exception. Et ce signe souligne donc le caractère universel de la règle. Alors je continue la lecture, où pour la première fois, on entend Abraham rire. Je cite. Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois des peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans ? Et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais Dieu reprit, « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa race après lui. En faveur d'Ismaël aussi je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac que va t'enfanter Sarah l'an prochain. » Il dit bien ça, hein ? L'an prochain, à cette saison.
Sur Radio Courtoisie, vous venez d'entendre la première partie de La promesse à Abraham, un récit de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour suivre la réalisation de La promesse. Histoire à la loupe.